Alors, on a beaucoup d'invités par téléphone, mais c'est toujours un vrai plaisir de les accueillir en chair et en os dans nos studios. Bonjour Philippe Loni.
Bonjour Philippe Supercaz.
Et bonjour Diego Arabal.
Bonjour les deux Philippe.
Bonjour Diego Arabal.
Alors, monsieur
Bonjour
Loni,
à tous.
il n'est pas besoin de vous approcher du micro comme vous le faites. On vous entend très bien. Je pense que vous seriez même de l'autre à Bannière que vous entendrez.
Ouais.
Donc, il n'y a pas de
Vous voulez dire que j'ai une grosse voix, mais ouais,
voilà.
C'est souvent ce qu'on m'a dit, même quand j'étais au collège et au lycée. Ouais.
Votre invité aujourd'hui, on l'a déjà reçu à deux reprises. Et
oui.
Là, vous la faites revenir pour une troisième fois.
Eh bien, parce qu'elle est prolixe dans
Mais
ses productions.
Sûr.
Et puis, pour une fois, j'ai fait une petite entorse au polar pour lire la prose de notre invité.
Que vous ne nous avez pas présenté encore.
Que je vais présenter maintenant et qui s'appelle Bérengère Lannemont-Marency. Que nous avons déjà reçu parce que c'est notre ami Philippe qui l'avait invité. Pour une fois, c'est moi, nous nous sommes rencontrés dernièrement à un salon. Elle m'a gentiment donné son petit bébé qui vient de paraître. Et donc je me suis dit, je vais le lire et je vais la recevoir. Voilà, alors bonjour Bérengère.
Bonjour.
Bonjour Bérengère.
Alors... Je vous reçois pour un petit livre qui s'appelle « Le cœur dans les étoiles », un livre que vous avez écrit et qui est illustré par Laurence Elisabeth Bordaveri, qui n'a pas pu être là ce matin avec nous, ce que nous regrettons, mais on aura l'occasion de parler de son travail. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, lorsqu'on vous avait reçu pour un autre de vos livres, dans lequel elle avait mis sa patte, c'est le cas de le dire. Alors, Le cœur dans les étoiles, c'est une histoire qui se passe quelque part dans les Pyrénées, mais c'est une histoire qui est dans un coin un peu étrange dans les Pyrénées, un coin un peu magique. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, ça se passe dans les Pyrénées, au pic du Midi. Mais ce pic du Midi, il est un peu fantastique, il est un peu merveilleux. Il est un peu merveilleux, il est un peu fantastique. Donc voilà. Donc j'ai imaginé un pic du Midi un peu différent, avec des habitants, des animaux comme un chat serval, enfin voilà, différentes espèces animales qui se côtoient et qui deviennent amies. J'ai imaginé un chemin merveilleux avec des habitations, des cabanes, des maisonnettes, voilà, des personnes qui, en fait, se reposent dans cet endroit-là. Donc j'ai imaginé presque tout un village là, voilà.
On pourrait croire d'ailleurs qu'on est quelque part comme dans le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, c'est-à-dire dans un lieu magique. Suspendu en dehors de la vie que nous connaissons, nous, et avec un certain nombre de personnages. Je pense à Espérance, qui est un papillon femelle, à Liberté, qui est une louve historique, mais on en dira peut-être deux mots, Persévérance, une abeille, et puis il y a des humains. Il y a Colette, une humaine, il y a un mage. Et puis, il y a un animal que j'affectionne particulièrement, parce que moi, j'adore les chats, qui est Batou, un chat serval, qui intervient dans cette histoire. Et tous ces personnages-là s'organisent les uns par rapport aux autres, mais il n'y a pas de concurrence, comme on pourrait croire dans la nature. Là, il y a une sorte de complémentarité.
Oui, c'est tout à fait ça. C'est de la complémentarité, c'est-à-dire que les personnages sont là pour livrer leur expérience pour cheminer, en fait, les uns les autres et s'enrichir, faire connaissance, apprendre à se connaître les uns les autres et partager. C'est chaque fois des moments de partage. Et quand je parle, par exemple, du chat serval, eh bien, ce chat serval va partager ses connaissances et va présenter sa maîtresse, qui est Colette. Voilà, par exemple. Voilà, donc... Il y a toute une présentation avec ces différents personnages, voilà, qui, euh, qui s'enrichissent les uns les autres, en fait, voilà, de leur expérience, mais aussi apprennent la bonté, apprennent le partage.
Donc il y a une sorte de leçon de vie dans ce petit roman.
Voilà, pardon, il y a beaucoup de leçons de vie. En fait, ce papillon qui était l'héroïne de mon premier livre, Le Messager du Soleil, elle a perdu Renaissance en chemin, hein, voilà, et elle se retrouve seule au Pic du Midi, et elle a besoin de rechercher son identité. Et donc, la rencontre avec ces différents personnages, on va dire, va l'aider à construire sa vie, à comprendre des choses concernant le monde et la mission de vie qu'elle a ici. Voilà.
D'accord. Vous introduisez un personnage qui s'appelle Liberté, qui est une louve, et je disais que c'est une louve historique, alors est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Oui, alors Liberté, c'est la louve des origines. Et pour moi, Liberté, la louve, elle a une vie, même si c'est mythologique, c'est l'origine avec Romulus et Rémus, l'origine de Rome, donc la fondation de Rome. Et donc je suis enseignante et je fais un petit peu de latin, et c'est vrai que j'aime bien aussi... ne pas oublier ces fondations, on va dire. C'est important pour l'enfant de comprendre l'origine de Rome, mais aussi ce qui s'est passé. Alors, j'ai imaginé, effectivement... Alors, j'ai pas complètement imaginé. C'est vrai que la louve, elle a bien recueilli Romulus et Rémus. Elle les a allaités. Jusqu'au jour où un berger est venu et a découvert ses deux enfants et les a élevés. Donc, j'ai imaginé, en fait, après, la vie de la louve avant la découverte de Romulus et Rémus et ce qu'elle a pu ressentir. Parce que pour moi, les animaux, ils ont aussi... ils ressentent des choses. Que ce soit un chien, un chat, peu importe, mais il y a une relation avec l'animal. Donc, je me suis dit, ben, cette louve, finalement, c'est de la mythologie, je me suis dit, mais voilà, elle a ressenti sûrement quelque chose, un sentiment d'abandon. C'est une mère. Donc, j'ai fait le rapprochement avec la mère qui perd ses enfants. Mmh. Voilà. Donc, c'était pour moi important de l'introduire et d'expliquer à Espérance les hommes qui se battent, qui luttent, parce que Romulus et Rémus, on peut dire qu'effectivement, il y a eu une lutte entre eux pour avoir le royaume et fonder Rome. Donc, il y a cette violence derrière. Et donc, je me suis dit, bah, effectivement, c'est important de dire aux personnes, regardez, attention, ne vous disputez pas pour un morceau de pain. Voilà, essayez d'être toujours dans le partage et essayez toujours d'être dans l'écoute. Voilà, c'est un peu ça. C'est pour ça que j'ai introduit aussi la louve, de dire, la louve, elle témoigne, elle dit, j'ai quand même, j'ai vu des choses, elle dit, j'ai vu des choses assez violentes, les hommes se font la guerre, hein. Donc... c'est quelque chose d'insupportable pour la louve.
D'ailleurs, la guerre est quand même un arrière-plan, même si elle n'est pas présente au cœur, mais elle traverse quand même de loin
tout le livre,
puisqu'il y a cette guerre entre Romulus et Rémus, qui déclenche des hostilités, qui va déclencher le comportement guerrier de Rome, si on peut dire. Plus tard, on rencontre Colette, cette humaine qui est la maîtresse, entre guillemets, parce que les chats n'ont pas de maître, les chats ont du personnel. Je suis bien placé pour le savoir. Donc, ils vont rencontrer Colette, cette humaine qui a quelque chose à voir avec la guerre, et que l'on retrouvera plus tard, dont on retrouvera plus tard des traces dans le roman. Mais on voit bien que c'est un arrière-plan, et c'est d'autant plus fort qu'il y a une rupture totale entre le récit lui-même, qui est un récit de paix, qui parle d'apaisement, qui parle d'amour, qui parle de confiance, qui parle de coopération. Et cet arrière-plan qui est toujours présent de guerre, que ce soit la guerre à partir de Rome, mais que ce soit aussi la Première Guerre mondiale, puisqu'à un moment donné, un personnage qui va apparaître autour de la Première Guerre mondiale. Et on voit bien la mission qui est donnée à Espérance est une mission par rapport à la pacification.
Oui, voilà. En fait, la rencontre avec Colette, Colette, c'est l'écrivaine, hein, donc je me suis basée aussi sur des recherches concernant cette écrivaine qui est assez engagée, qui a aussi du caractère et qui a été employée en collège-hôpital. Et donc, elle a vu certaines choses. Elle a vu des soldats avec des soldats qui ont des blessures assez profondes, voilà, des soldats estropiés et voilà. Donc elle l'a vu. Et en fait, pour moi, il était important que Colette revive et témoigne de cette guerre et dire à Espérance, ben non, il faut plus continuer comme ça. Aujourd'hui, il faut cesser de vivre dans cette violence, dans ces combats permanents. Et ensuite, c'est vrai que il y a ce soldat qui entre en jeu. Et c'est vraiment la mission d'Espérance, c'est d'apporter la douceur, le bien-être et on va dire, pas de gommer les souffrances, parce qu'elle ne peut pas, Espérance, gommer les souffrances de ce soldat ni de Colette, mais de pouvoir dire, c'est délivrer un message en fait, de pouvoir, après ces rencontres-là, de pouvoir dire aux personnes, tâchez de faire attention à ce... À ce monde-là, à cette société, essayez de vivre en paix de partager, d'échanger, sans pour autant se disputer ou en venir à la guerre.
Il y a ce passage où Espérance a une mission qui est d'aller rencontrer un personnage. Et en fait, ce personnage, il est dans le noir, au sens propre du terme. C'est-à-dire que tout votre livre est dans la lumière. Et lui, il est dans le noir dans ses yeux, le noir dans sa demeure, le noir peut-être dans sa tête. Et Espérance a comme mission d'éclairer. Alors, il ne s'agit pas de faire disparaître cette noirceur, mais de révéler les couleurs qu'il peut y avoir et dans laquelle le noir en fait partie. Donc je trouve que c'est un passage qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Philippe, vous aviez envie de lire un petit passage, j'ai l'impression.
De lire un petit passage, tout à fait, parce que je trouve que ça illustrera effectivement l'échange que vous aviez tous les deux, Diego Arrabal et Bérangère Lannemorency. C'est en page 42 de votre roman, Bérangère. Et puis en 1916, j'ai voulu voir de plus près cette guerre. De très longues heures de train dans le froid. À 10 kilomètres du front, je me suis caché chez un sous-officier. Tout près du faubourg, c'est là que je l'ai remarqué. « Qui donc ?» demandai-je intrigué. Je buvais ses paroles et son histoire attisait ma curiosité. Ce soldat du 62e régiment d'infanterie, comme un animal blessé et affamé, il furetait à droite, à gauche. Sali par la boue, alourdi par son barda, sa musette presque vide. Je me souviendrai toujours de son regard noisette. Je me suis approché de lui. Quelques blessures au bras droit entachaient son manteau. Étrangement, son poignet gauche était enroulé dans un morceau de chiffon. À cet instant, je ne sais alors ce qui m'anima, mais je le pris dans mes bras. Le silence nous a réunis quelques secondes alors que les avions de chasse vrombissaient alentour. Il a eu juste le temps de prononcer quelques mots et de me confier son bout de tissu. Je n'ai jamais revu ce jeune homme, mais je peux te certifier, Espérance, que ce combattant recherchait la paix entre les lignes de mon sourire naïf. Au moment précis où nos regards se sont croisés, un sifflement s'est écrasé à quelques kilomètres de nous. Et notre course est perdue contre la mort, nous sépara brutalement.
C'est un passage extrêmement fort et intéressant. Et en fait,
je sens ému, Diego Rabal, même quand vous en parlez.
C'est un peu émouvant. À un moment donné, ce personnage, donc le mage confie une mission à Espérance. Espérance va essayer de remplir cette mission. Elle la remplit un peu, mais pas totalement comme elle l'espérait. Et cet homme qui vivait dans le noir va lui confier une autre mission et la faire partir, et la faire revenir à son point de départ, puisqu'elle était partie de Pau. Oui. Elle va revenir dans la ville de Pau, et elle doit rencontrer quelqu'un, ou du moins elle a un signe de la personne qu'elle doit rencontrer, une bicyclette bleue. Oui. Est-ce que c'est un hasard si c'est une bicyclette bleue?
Non, c'est pas. Enfin, c'est pas.
C'était un roman d'origine de Forge, ça. Ouais. C'est à ça que vous pensez, Diego Rabal?
Oui, oui, c'est vrai que la bicyclette bleue. Alors, il y a deux choses. Hein. La bicyclette bleue, c'est vrai que je suis fan d'origine de Forge et j'ai lu tous les.
C'était le premier de la trilogie, celui-là.
Oui,
c'était le premier de la trilogie. Ouais.
Et en même temps, vous voyez, la bicyclette bleue, c'est ma première bicyclette.
Ah, d'accord.
Moi aussi. voilà. En fait, mon grand-père avait. Je crois qu'il avait gagné au tiercé, enfin à l'époque il jouait au tiercé, et puis en fait avec l'argent il m'avait acheté une bicyclette, voilà.
D'accord.
Et la bicyclette était bleue aussi.
D'accord.
Donc c'est
à la fois un retour vers votre passé,
aussi.
Mais aussi une résurgence de vos lectures,
oui,
d'un auteur que vous aimez.
Oui, d'un auteur que j'aime bien, oui, voilà.
D'accord. Donc on n'en dira pas plus parce qu'il faut quand même que nos auditeurs aillent lire le roman. Alors ce roman, il n'est pas qu'un roman, il est aussi un roman avec des illustrations, hein, réalisées par votre amie Laurence Elisabeth Bordaberry, et qui a une particularité, mais vous en aviez déjà parlé lors du précédent roman que vous nous aviez présenté ici, que Philippe avait présenté. C'est qu'elle fait des dessins avec...
Oui, avec du vernis à ongles usagés. Elle a une armoire chez elle. Encore l'autre jour, elle me disait, je ne sais plus où les mettre. J'ai une armoire de vernis à ongles usagés. Et donc, elle peint, elle réalise ses dessins et ses peintures avec le vernis à ongles usagés. Elle utilise aussi l'aquarelle, bien sûr. Mais voilà, elle mélange. Alors, ce qui lui plaît, c'est mélanger aussi les couleurs, associer des couleurs, et puis les vernis un peu brillants aussi. Elle aime beaucoup ce genre de.
Est-ce que vous voulez qu'on lance une annonce à la radio pour les personnes qui auraient du vernis usagé pour
tout à fait, ils peuvent m'envoyer un mail et voilà.
Hein, vous laisserez votre courrier à la fin, Bérangère.
Oui,
Lano,
je vais me laisser Marancy, le mail. Ils peuvent effectivement envoyer.
Plutôt que de le jeter, au moins que ça soit utilisé pour les illustrations de vos romans, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et donc ces illustrations, en fait. Là, elle a fait un gros travail et un très beau travail. Je la remercie infiniment. Si elle nous écoute, je la salue. Elle n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais elle a fait un énorme travail.
Il y a une grande douceur, moi,
je
dirais.
Il y a beaucoup de douceur.
Il y a une très, très grande douceur qui se dégage effectivement des dessins, y compris, par exemple, en page 43, le dessin de ce soldat, donc avec cet avion.
Oui.
Qui le surplombe. Mmh. En page 42, cette image de la tour Eiffel avec cette infirmière.
Infirmière, ouais.
Hein, on sait que il y a eu énormément de femmes, on l'oublie souvent, pendant la Première Guerre mondiale et aussi durant la Seconde Guerre mondiale, qui se sont occupées des hommes qui revenaient du front. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, hein, des gens qui n'arrivent plus à boire, hein, vous dites qu'il faut effectivement mettre sur la bouche... Une serviette pour pouvoir donner de l'humidité, parce que voilà, ils ont une partie de la bouche arrachée certainement par un éclat d'obus. Vous le dites pas, mais c'est ce qu'on comprend.
Je suggère les
c'est ce qu'on comprend. Voilà, on comprend que ce sont des gueules cassées. Quoi. Oui. Il y en a eu 700 000, on rappelle quand même.
Oui, oui.
700 000 gueules cassées durant la Première Guerre mondiale, juste pour...
Moi, je vois aussi, page 69, toute la tristesse dans la vignette concernant ce personnage qui vit dans le noir et avec le noir.
Oui, ce regard.
Donc, il y a un regard extrêmement fort.
Oui, c'est puissant.
Et en même temps, extrêmement épuré, puisqu'on est juste avec des traits bleus, noirs.
Oui, c'est laissé...
Et sur un fond blanc. Et donc...
Tout à fait, elle a le don, on va dire que c'est, pour moi, elle a un don, c'est de laisser passer l'émotion, la lumière ou l'obscurité à travers ses peintures, à travers ses dessins. Et comme vous dites, en fait, c'est épuré, c'est-à-dire qu'elle ne va pas charger son tableau... Parce qu'il n'y a pas besoin, il y a juste une émotion qui passe, je pense à la mer avec le papillon au bout du doigt.
Oui, toujours voilà, sur cette page à 69.
Voilà, toujours là, sur cette page 69, qui va illustrer ce paragraphe, parce qu'à chaque fois, on a essayé avec la maison d'édition
de pouvoir positionner par rapport au texte. Oui.
Complètement, et pour donner une idée, en fait, ça accompagne en fait, le lecteur dans ce monde, en fait, ce monde imaginaire, ça l'accompagne un petit peu et ça lui permet de visualiser davantage la maison, par exemple, je vois à la page 65, la maison de Colette, ça peut, on a aussi le bocal du mage qui contient... Je ne dirais pas, mais qui contient quelque chose de magique.
Une poudre magique.
Voilà. Donc, elle a beaucoup de goût aussi permettre d'associer les couleurs comme ça, se permettre d'associer les couleurs. Et je sais, parfois, elle laisse passer son inspiration, elle laisse glisser cette inspiration et ça fait un visage un peu surprenant à la page 72, avec notamment un visage qui n'est pas qui s'associe aux étoiles, voilà, qui n'est pas forcément un visage avec un regard, mais le regard, ce sont les étoiles. On peut imaginer plein de choses, en fait.
Peut-être des étoiles filantes.
Oui, des étoiles filantes ou le bal de la lune et des étoiles. Oui. Comme,
et en fait, c'est plus que des illustrations, ce sont des enluminures presque. On est presque dans un,
dans un
texte avec enluminures,
où
on a ces dessins qui viennent faire du contrepoint au texte, qui viennent le souligner, vibrer avec, etc. Donc c'est vraiment un très beau travail en commun, quoi.
Oui, et la couverture aussi. Et la couverture a été très bien réalisée.
L'objet livre est très beau. C'est vrai qu'on parle très souvent. Alors, on est à la radio, on ne peut pas le voir, mais c'est vrai que pour les personnes qui vont se procurer le livre, l'objet livre et la qualité du papier aussi.
Oui.
Il faut en parler parce que, vous prenez un livre de poche. Un livre de poche, c'est bien. La particularité du livre de poche, c'est qu'il n'est pas cher. Mmh. Ça permet de lire, mais c'est vrai que la qualité du papier sur un livre de poche, ce n'est pas ça qu'on va rechercher, quoi.
Non.
Clairement. Par contre, dans votre livre, il y a une qualité à la fois dans l'écriture, il y a une qualité dans la mise en page, il y a une qualité... dans les illustrations donc, de Laurence Elisabeth Bordaberry. Et c'est vrai que le tout, ça donne effectivement un objet livre qui est très, très agréable. Et je ne suis pas du tout surpris que Diego Arrabal ait eu envie de vous réinviter après la première invitation. Et puis, on attendra la suite maintenant.
Oui, j'espère qu'il y aura déjà, une suite. C'est vrai que Le Soldat, c'est une histoire qui me touche particulièrement, puisque... Le Soldat, c'est le grand-oncle de mon père. Et en fait, je fais des recherches sur sa vie et je voudrais retracer son itinéraire. Un soldat béarnais qui vit dans une maison, dans une famille de 10 enfants au départ et qui, malheureusement, est décédé sur le front, au front.
Et vous savez où il est enterré ou pas?
Oui, à Soissons. Il est dans une nécropole.
Dans une nécropole?
Oui.
D'accord.
Nécropole, oui, à Amblenie, oui. Et donc, j'ai des documents, j'ai des photos, donc je fais beaucoup de recherches sur lui. Et, Et j'ai voulu vraiment lui rendre hommage à travers ce livre et cette histoire aussi. Et puis, voilà, donc pour moi, ça a été un gros travail avec Laurence Bordaveri. Ça a été un gros, gros travail. Mais c'est vrai que le livre, l'objet livre est beau.
Eh bien, merci Bérangère d'être venue nous rencontrer. Donc, vous nous avez présenté Le cœur dans les étoiles aux éditions Maya, illustré par Laurence Elisabeth Bordaveri. Merci Bérangère Lannou-Marancy, et puis au plaisir de vous retrouver avec votre prochain opus.
Vous revenez quand vous voulez ici, hein, vous savez que la porte est ouverte. Hein.
Merci beaucoup, merci à vous pour ce moment qui était très agréable. Merci Diego et merci Philippe.
Et puis
merci
voilà, beaucoup. Et voilà comment du salon pyrénéen, eh bien, on a des invités.
D'accord, et bien voilà.
À bientôt.
À bientôt, Philippe Supercaz.
Vous revenez pas bon pied, bon œil, puisque vous avez un souci avec le genou. Mais
voilà. Et comme il le dit, crise de goutte, ça arrive. Et je ne mange pas de charcuterie, je le précise.
Et je tenais à vous féliciter parce que malgré le genou enflé et la douleur, mais vous êtes quand même fidèle à ce rendez-vous.
Et j'ai monté les escaliers, mais difficilement pour venir après ça.
Pour vous descendre avec Diego.
Il faudra que je descende tout à l'heure.
On va vous aider.
On va vous prendre sur une chaise. On va vous descendre.
On est à Lourdes, Philippe Supercaz. Tout va bien, c'est pour ça.
Je vais vous amener à un endroit, vous allez voir. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.